Mais qu'est-ce que ça?
Hein? Mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh! Ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour et bienvenue à l'émission Dossier bizarre. Ici Tristan Brunet-Dupont et Jason Lévesque. Salut Jason.
Bonjour Monsieur Tristan Brunet-Dupont.
Ça va bien?
Ça va très bien toi-même?
Oui, ça va, merci.
Hey.
On est dans une passe créature ce temps-ci, Jason.
Ben oui. Ben, en fait, j'avais une liste de sujets que je me suis fait. On en a fait une commune, mais on en fait aussi chacun de notre bord. Hein, quand on voit des sujets passer, là, on les note. Et cette créature-là faisait partie des sujets que j'avais notés. J'ai décidé de le faire plus tôt un peu dans la saison. Je m'attendais plus à le faire plus tard, étant donné qu'on a fait des créatures là, ouais. Dernièrement. On a fait le loup-garou, on a fait le Wendigo, on en a fait deux là, en trois épisodes. Je voulais pas nécessairement le faire, je pensais plus faire les sorcières, mais j'ai décidé de ramener celui-là. Parce que j'ai comme eu envie de le faire en jouant au jeu Fallout 76. Je vais me confesser. C'est que cette créature-là fait partie du jeu.
Ah, oui.
Elle a même une grosse part à jouer dans le jeu. Ça m'a fait comme, ben, coudon. J'ai du fun, là.
Ben, c'est ça, t'es dans le momentum.
Je vais en parler. Ben, c'est ça, je suis dans le beat. Et une autre raison pourquoi j'ai décidé de le faire maintenant, proche des autres créatures, c'est que jusqu'à maintenant, Tristan, les créatures qu'on a faites, tire leur source il y a plusieurs centaines d'années, voire des milliers d'années.
Oui.
Le Bigfoot, ça fait partie du folklore amérindien depuis longtemps, et le folklore américain maintenant qu'ils se sont approprié le Bigfoot, mais ça faisait partie du folklore amérindien bien avant l'arrivée de l'homme blanc en Amérique. On a parlé du Wendigo qui remonte à des temps presque immémoriaux. On a parlé du loup-garou, on parlait de l'Antiquité.
Ben
là,
oui.
Le loup-garou, ça fait plusieurs milliers d'années aussi. Et les créatures comme ça, on trouve leur source souvent il y a très, très, très longtemps.
Mm-hmm, bien sûr.
La créature qu'on va vous parler aujourd'hui, c'est une créature moderne.
Ah ouais. Okay.
Elle est moderne.
Okay.
Et ça date d'il n'y a pas très longtemps.
Ah, et
fait
c'est...
C'est le fun.
Ben oui,
c'est
ben
le fun
oui.
Parce que ça casse un peu le beat de analyser la manière qu'on pensait. Souvent, on va dire, cette créature-là fait partie de la mythologie, puis on s'en servait
oui.
pour prévenir les gens de quitter la ville, puis de s'aventurer dans la nature sauvage. Fait qu'on inventait une créature qui vivait dans la forêt, puis qui faisait peur aux gens, qui empêchait qu'il y aille. Là, c'est pas ça pantout, là. Il y a
okay,
rien
okay.
à analyser de là, mais pas pantout. C'est vraiment une histoire moderne.
Ah ouais, mais de quelle créature on parle ici?
On parle du Mothman, ou l'homme papillon en français.
Ah, ben... C'est drôle, ça me dit rien.
Ça te dit rien,
ça
hein?
Ça me dit rien, puis j'ai déjà vu une photo à quelque part, mais il y a vraiment là, nulle part, j'ai jamais vu ça, je connais pas,
ben,
je connais
c'est,
pas.
C'est très très fort aux États-Unis, les Américains étant extrêmement patriotiques, quand il y a quelque chose qui origine de chez eux, ils aiment bien plus ça que quelque chose qui vient de l'extérieur,
ben, oui.
puis qu'ils ont adapté. Alors celle-là, là, elle leur appartient à 100%.
Ah ouais, c'est vraiment...
C'est une créature américaine.
OK, c'est ça, America!
Juste américaine. Là. Je suis certain qu'elle a un petit drapeau de tatoué sur le bicep. Là, puis, mais c'est vraiment... C'est juste américain.
Ah ouais, okay.
Et c'est même très précis dans les États-Unis.
Ah.
Là. C'est pas à grandeur des États-Unis. C'est une place
okay,
aux
oui.
États-Unis qui vivent avec cette créature-là.
Un peu comme toutes les créatures marines, là, comme mm-hmm. le monstre du monde, le monstre de mégantique,
ouais,
le
Loch Ness.
C'est des créatures qui sont attitrées à une région spécifique.
Une région spécifique. Mm-hmm. Alors, le Mothman ou l'homme papillon est vraiment attitré à une région spécifique.
Okay.
Alors, on va reculer dans les années 1960.
D'accord.
1966, pour être plus précis, au mois de novembre. 1966. Tristan, est-ce que tu as déjà, quand on fait un feu à l'extérieur, on est en camping par exemple, où on va faire un feu là, dans la forêt avec nos amis puis tout ça, on est assis autour du feu, est-ce que tu as déjà eu un papillon de nuit qui est venu te ciler proche des oreilles ou qui est venu se coller après toi parce qu'il y a de la lumière, les papillons de nuit sont attirés, puis c'est pas pareil comme un maringouin ou une mouche, ou ça fait pas bzzz, ça fait
non.
pas ça, hein? Ça
non.
fait comme...
Oui,
c'est
exact.
Plus un son... On sent des ailes comme quasiment en cuir.
Ben, c'est
le
ça.
Le son que ça fait. Hein?
C'est, ça a des grosses ailes, un papillon.
Ça a des
grosses
papillon. Ailes. Ça a des ailes très épaisses qui
exactement.
Font un bruit là, beaucoup plus.
Ça s'appelle saut, là, tu sais.
Oui, ben,
quand
c'est
t'es
ça.
Autour d'un feu, tu te demandes vraiment c'est quoi qui vient de jouer dans les oreilles.
C'est
là,
pas agréable.
Non, non, non.
Mais pas du tout. Alors, imaginez-vous une créature qui mesure entre 6 pieds et demi. Toi, tu mesures combien déjà?
6 et 4.
Bon, ben, une créature un peu plus grande que toi, jusqu'à 7 pieds.
Ok. Il se cogne la tête sur les cornes de porte.
Lui, il passe pas dans une porte. Et cette créature-là a des ailes comme un papillon de nuit.
Ah ouais.
Alors imagine le son. Juste un petit papillon de nuit qui vient proche de notre oreille le soir dans le bois. C'est... Qu'est-ce que c'est ça? Mais là, imaginez une créature de cette ampleur-là avec des grandes ailes de papillon de nuit qui prend son envol.
Ben, c'est là, ça me parle personnellement parce que c'est aussi que je collectionne les insectes.
Oui.
Et puis les papillons, tu sais, quand on parle, là, tu parles d'un petit papillon de nuit, mais juste les Saturnidés
qui
sont une famille, là, un genre de papillon.
Une ampleur d'ailes très grande.
Exactement,
si
ils sont très gros. Puis il y a le Cécropia. Dans les Saturnidés qui atteint à peu près 30 cm.
C'est énorme.
Puis, quand ça passe à côté de toi, t'as l'impression que c'est une chauve-souris ou un oiseau.
C'est très gros.
Alors que c'est un papillon.
Et ça doit être relativement bruyant.
Oui, quand même. Oui. C'est pas comme. On l'entend pas comme une chauve-souris ou un oiseau. Mais c'est clair que ça fait du bruit quand même et on l'entend. Les papillons, là. Puis tu parlais du feu tantôt, sont attirés par la lumière.
Absolument.
Donc, il y en a même qui
c'est
se brûlent.
C'est la raison pour laquelle, souvent, quand on est dans la nature ou dans la campagne, puis on a une lumière qui n'est pas couverte là, à l'extérieur, juste un globe vissé à l'extérieur, souvent, on va allumer la lumière, puis dès que la noirceur tombe, il y a plein d'insectes autour,
exactement,
dont des papillons de nuit, puis des fois, des relativement gros.
Oui,
assez exactement. Impressionnant.
Mm-hmm, bien sûr.
Alors, imaginez ça, mais sous forme humaine.
Hey, là,
ou un hominidé.
Mais est-ce qu'il y a des gens au niveau de la
forme humaine,
okay,
mais avec des ailes, avec des yeux rouges et une grosse créature.
Une grosse bébête.
L'homme papillon, la période, ça a été très court. La période où son mythe est né dure un an.
Ah ouais.
C'est très court et c'est pratiquement jour pour jour un an.
OK.
Pratiquement jour pour jour. Donc, de 1966, le 12 novembre 1966 au 15 décembre 1967. Donc, à peu près 13 mois.
Mm-hmm.
Presque exactement. Ça commence, le premier...
C'est court.
C'est très court, mais ça a été très intense.
OK.
Et depuis ce temps-là, le mythe de l'homme papillon, du Mothman, continue d'être perpétué et continue d'être célébré aussi, hein, parce qu'aux États-Unis, même si c'est une histoire qui fait peur, on veut faire de l'argent avec.
Alors, on a
eu des utilisations commerciales du Mothman, il y en a tout plein. Je vais vous revenir, il y a même un festival, si vous voulez y assister, là.
Ah ouais.
Je veux faire une sortie cette année.
Oui.
Ben, je vais vous dire à quel moment vous allez pouvoir y aller.
Ah, ben, excellent.
Alors, on se ramène en 1966. Au mois de novembre 1966, on est en Virginie-Occidentale, la portion ouest de l'État de la Virginie, aux États-Unis. C'est dans les Appalaches. C'est sensiblement le même genre d'environnement qu'on a ici là, au Québec. Là. C'est très, très, très ressemblant. Alors, le 12 novembre 1966, tard le soir, il y a eu un décès dans la ville de... J'ai un blanc, mais je suis tellement mauvais avec les noms. Todd Harper, Point Pleasant. Voilà.
Okay.
Point Pleasant en Virginie-Occidentale, en Virginie de l'Ouest. Il y a eu un décès. Alors les pourvoyeurs ou les fossoyeurs plutôt vont préparer le terrain pour l'enterrement du lendemain. C'est la nuit, on est en train de creuser la tombe, on prépare tout ça. Et soudainement, on entend, mais de manière très, très forte. Et là, les gens qui travaillent dans le cimetière, qui sont pas des peureux, hein, dans un cimetière la nuit comme ça, creuser des tombes, faut quand même avoir être très terre à terre.
Ben, c'est ça.
Sinon, on fait pas ce métier-là très longtemps.
Exact.
Alors, c'est des gens qui ont le cœur bien accroché, mais lèvent la tête et là, ils voient une figure difficile à distinguer parce qu'il fait noir. La figure est très foncée, mais ils voient que c'est très gros. Et là, ça sort d'un bosquet, cette affaire-là, et ça s'envole pour aller se poser sur une branche. S'envole à nouveau, s'en va sur une autre branche, et après ça, un bruit de battement d'ailes, et il le perd de vue complètement.
Ah ouais!
Là, on est le 12 novembre 1966. Les gars travaillent dans un cimetière, les gars sont réputés pour être très terre à terre, ils se regardent et ils disent « C'est rien passé, hein? C'est rien passé, on n'en parle pas.
Okay. »
On décide de ne pas en parler.
Ok, ouais.
On décide de garder ça discret.
Ah, ouais.
Ça, c'est la première fois que quelqu'un aurait vu l'homme papillon. Mais ils ont gardé le silence. Ils ont gardé le secret parce que, bon...
Ils voulaient pas avoir l'air des...
Ils voulaient pas avoir l'air d'une gang de peureux là, qui travaille dans un cimetière puis ils voient des affaires. On voulait pas se faire achaler avec.
Je veux plus travailler, il y a des créatures qui rôdent.
Je peux-tu avoir un congé de maladie? Il y a des bébites qui me font peur.
J'ai peur des monstres. J'avoue que ça, ça, ça manque de crédibilité.
Ben, surtout quand quelqu'un travaille comme ça.
Ben, c'est
bon,
ça.
On le dit, hein, quelqu'un qui est un fossoyeur, quelqu'un qui travaille à préparer des tombes le soir, à n'importe quelle heure du jour comme ça. Habituellement, c'est des gens qui sont réputés pour être... c'est des solides.
Ben oui, ben déjà, ce que je fais comme analyse rapide, c'est que déjà là, ça part de vue. On a vu quelque chose. C'est pas comme, par exemple, le loup-garou, où là, c'est vraiment des légendes, des
ouais,
mythes.
Ben c'est des croyances qui sont perpétuées dans la tradition orale. On raconte l'histoire, puis très détaillée. Puis souvent, hein, les conteurs rajoutent des détails d'une fois à l'autre. Là, c'est des gars qui travaillent à creuser une tombe, et là, ils se lèvent la tête, et ils voient une bébite immense qui vole et qui se pose sur des branches et qui finit par disparaître.
C'est quand même récent aussi, crédibilité aussi des personnages, on parle d'un témoignage, ça part d'un témoignage.
Donc. Oui, absolument. Alors, les Saint-Com décident de garder le silence, disent « on n'en parle pas,
okay.
On n'en parlera pas ». Par contre, trois jours plus tard, deux couples, des jeunes fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, mettons 18 à 22 ans, dans ce coin-là, deux couples mariés, donc des très jeunes couples mariés, Roger et Linda Scarberry et Steve et Marie Mallette, se promènent en voiture, ils vont faire une promenade et Point Pleasant.
Ah, Pleasant Park, c'est dans Fortnite.
Point Pleasant, durant la Deuxième Guerre mondiale, Tristan, il y avait une usine qui fabriquait des munitions.
Okay.
Eux, ils appellent ça l'usine à TNT.
Okay.
Dans le coin, là, c'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est le nom de la place où cette usine-là était. L'usine est abandonnée aujourd'hui. Il y a encore des entrepôts, il y a encore du matériel de fabrication, il y a encore des choses qui traînent là-bas. Et c'est un lieu où les gens vont se promener, puis là, les jeunes vont probablement faire du necking dans ce coin-là, puis bon, ils s'en vont dans la forêt, puis ils vont se promener. Les jeunes s'en vont se promener en voiture dans ce coin-là. Les deux jeunes couples, donc deux hommes, deux femmes, qui vont se promener. Ils sont en voiture et là, ils vont prendre une marche dans le bois et soudainement, que voient-ils? Deux yeux rouges. Des yeux rouges qui semblent être des réflecteurs de vélo.
Ah.
Je vais vous donner une image. Là. Ça ressemble un peu à ça. C'est comme si la lumière se reflétait dans les yeux d'une créature. Et là, soudainement, ils entendent eux aussi. Ils entendent l'envol de la créature. Et soudainement, voient une créature à forme humaine, brunâtre, avec des ailes. Encore là, il fait très noir. On est dans la forêt.
Ben oui.
On est dans une zone où il y a déjà eu une usine. Déjà, c'est mystérieux un petit peu, là, parce que c'est abandonné. Fait qu'imaginez une vieille usine abandonnée. On a tous déjà vu ça dans notre jeune temps. Là, on allait avec notre bicycle à pédale. Puis, hey, la vieille usine abandonnée, c'était notre point de rendez-vous. On n'était pas supposé de jouer là, c'était dangereux. Puis on y allait. C'est un peu le même principe. Là. C'est un peu la même ambiance. Et là, on voit cette créature-là et on l'entend.
OK.
Et on la voit.
Deuxième témoignage officiel.
Deuxième témoignage, trois jours plus tard. Donc, ces jeunes-là prennent peur.
Okay.
Et ces quatre jeunes-là, les quatre sont témoins. Là.
Ah ouais.
Les quatre l'ont vu ensemble, comme les cinq hommes qui travaillaient dans le cimetière. Les quatre jeunes l'ont vu. Et là, on prend panique parce qu'on voit vraiment, c'est suffisamment clair et on a suffisamment l'impression qu'il y a quelque chose de menaçant. Les quatre, spontanément, les quatre courent jusqu'à la voiture et démarrent en trombe.
Ah ouais.
Et là, en quittant le lieu de l'usine de TNT, on se rend compte que la créature suit la voiture. Alors là, on accélère, et on accélère, et on accélère. On arrive à 160 km/h, qui est à peu près 100 000 à l'heure, là, en mesure en 1000. Et la créature continue de suivre. Et la créature bat à peine des ailes.
Ah,
elle plane à une vitesse absolument incroyable, et on ne réussit pas à semer la créature.
Ah, ouais.
Les jeunes retournent à la ville, donc retournent dans les habitations où c'est habité, et s'en vont directement au poste de police en disant, écoutez, on a de l'air niaiseux, là, mais on est à jeun, tout le monde. On vient de voir une créature qui mesure à peu près 7 pieds avec des ailes et des yeux rouges. On a roulé à 160 km/h, puis elle ne nous a pas lâchés. On ne sait pas où qu'elle est parce que quand ils sont arrivés près des habitations, de la zone habitée, la créature s'est posée dans un champ et l'observation, et c'est quand même spécifique, ils disent elle vole super vite, mais à terre, elle a de la misère. Elle marche pas bien, la créature. Oui, absolument.
Oh, ouais, ben ouais.
Et après ça, elle s'est envolée et elle est disparue.
OK.
Donc, les quatre jeunes vont témoigner au poste de police. C'est M. Millard Halstead qui est le shérif du coin et dans le comté de Mason, où se trouve la petite ville. Et lui, il dit, écoute, on est un petit village. Je les connais, ces quatre jeunes-là. Ils consomment pas. Ils n'ont jamais eu de problème avec la justice. C'est pas d'histoire. Là. C'est quatre jeunes discrets. On n'entend jamais parler. C'est des bons jeunes. Là, ils sont arrivés les quatre blancs comme des draps. puis ils ont peur. Mais vraiment, là, c'est viscéral. Là. Et le shérif dit, écoute, j'ai pas le choix de les croire. Là. Je les connais, ces jeunes-là, puis dans l'état qu'ils sont arrivés, là, faut que je réagisse, j'ai pas le choix. Ce qu'ils me racontent, là, c'est pas... Ils montent pas une histoire. Là. Ils ont vraiment peur. C'est visible. Ils ont peur. Ils ont vraiment très, très peur.
C'est donc bien épique comme histoire. J'ai d'avoir un frisson.
Donc, la nuit suivante, le 16 novembre 1966, toujours, on décide de faire une battue.
Ah oui,
parce carrément. Que là, l'histoire, c'est répandu là, comme une traînée de poudre. C'est un village. Ben ceux qui habitent dans des petites municipalités, là, des petites communautés, vous le savez, hein, quand quelqu'un arrive avec une histoire un peu étrange, c'est pas trop long que ça a fait le tour. Hein. Peut-être que le shérif a parlé à sa femme, puis le lendemain matin, sa femme a fait un tour du village pour l'expliquer à tout le monde. Peut-être que le shérif lui-même, là, je dis sa femme, mais c'est pas sexiste ben, du tout. Peut-être que le shérif lui-même qui a pas été capable de tenir sa langue, parce que ça l'a peut-être lui-même marqué
ben, oui.
de voir ça. Il a peut-être fait comme... Faut que j'en parle à quelqu'un, ça n'a pas de sens. Faut que je trouve quelqu'un qui va peut-être pouvoir m'aiguiller sur comment dealer avec ça,
ben parce
qu'il savait pas quoi faire.
Puis les gens du cimetière qui voulaient peut-être en parler, mais qui n'en parlaient
c'est
pas.
C'est ça. Donc ça, c'est trois jours plus tard. Et là, quand eux ont entendu que les quatre jeunes avaient été témoins d'exactement la même description que eux, ils ont fait comme « Oh, on va peut-être qu'on devrait en parler nous autres aussi.
Okay. »
Alors, eux se sont manifestés. Et ont aussi été voir le shérif pour dire « Écoute, les jeunes qui sont venus te parler, là, ben, il y a trois jours, nous autres, on a vu la même affaire. »
Ah ouais.
On a été témoins, nous autres aussi,
sont
de la même chose. Alors, ils en ont parlé. Ils ont fini par aller témoigner, eux autres aussi, qu'ils avaient été témoins de la même chose.
Ça me fait penser à, pour un phénomène extraordinaire et un peu, tu sais, on a l'impression que c'est fictif, là, que ça se peut pas, mais dans le sens, ça me fait beaucoup penser à notre premier épisode de Jason, la station l'OVNI, la station Bonaventure.
Il y a des gens super crédibles ont été témoins, là.
Exactement.
Chef de police qui dit
il y a vraiment de quoi dans c'est ça, exactement.
M'appeler l'armée.
C'est ça, c'est l'accumulation de témoignages crédibles.
Ben, c'est ça qui fait que c'est étrange. Je veux pas dire que c'était une créature fantastique, mais ils ont quand même vu quelque chose, ces gens-là. Ils ont vu quelque chose qui, pour eux, c'était out of place. Là. C'était pas normal de voir ça là, à ce moment-là. C'était particulier, quelque chose que leur cerveau n'était pas capable d'identifier comme étant une présence normale dans leur environnement régulier à laquelle ils sont habitués. Alors, ils ont fait une battue le lendemain, le 16 novembre. Les villageois se sont armés avec des douze, puis des fourches, puis
comme dans Shrek.
Haches, puis
allez attaquer la créature.
Les villageois avec des torches. Allez, on y va. Donc, les villageois ont fait une battue. Et on a tenté de voir s'il y avait quelque chose dans le secteur. On appelle ça les igloos. C'était les entrepôts pour les munitions à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Okay. C'était des dômes. Ah, et on appelle ça des igloos. Il y a des résidences aux alentours aussi. Alors, on a fait une battue dans ce secteur-là. Et on n'a pas nécessairement rien vu de particulier qui n'était pas normal. Par contre, d'autres gens du village ont été rendre visite à des amis ce soir-là. Le même soir, le 16, au moment de la battue. Et eux aussi... étaient pas très loin de où la battue se tenait.
Okay.
Ont été rendre visite à des amis et ont été témoins eux aussi.
Ah ouais.
Encore une fois, d'une créature étrange.
Troisième
témoignage en l'espace de 5 jours.
Okay.
Même pas, de 3-4 jours à peu près. Donc, très, très, très court laps de temps, on a vu ces créatures-là. Et, on téléphone à la police et on dit que la créature est entre les maisons. Elle circule, elle est très loin, mais on la voit bien. On sait qu'il y a quelque chose de pas normal qui se promène. Et eux aussi témoignent à la police alors que la battue a lieu. Eux l'ont vu pas très, très loin de la battue. Comme si la créature avait dit « Oh, il y a du monde qui me cherche. » Bon, on en allait un petit peu plus loin et je vais aller me cacher. Alors, ces gens-là ont été témoins. Le 24 novembre, encore là, on est à peu près dans la même période de temps. 4 personnes qui voient la créature voler au-dessus de la zone de l'usine de TNT. Le matin du 25 novembre, Thomas Urie, qui conduisait sur la route 62 au nord de l'usine, dit avoir vu la créature se tenir dans un champ près de la route, ouvrir ses ailes et décoller. Et là, lui, c'est le matin. Là. Il commence à faire clair.
Ah, ouais.
Donc, il y a quand même une vue possible.
C'est plus la nuit, parce qu'avant, c'était tout le temps la nuit.
C'est ça.
Mais là, c'est la première fois.
Lui, il voit quelque chose à la lumière du jour.
Ah, ouais.
C'est ça. Là, on est rendu le 26 novembre. Madame Ruth Foster de Charleston, qui est aussi là, dans le même secteur, en Virginie-Occidentale, en banlieue de Saint-Alban, dit avoir vu ce qu'elle appelait déjà le Mothman, l'homme phalène ou l'homme papillon, se tenir sur sa pelouse. Il n'était plus là lorsque son beau-frère vérifia. Le 27 novembre, le lendemain, la créature poursuivit une jeune femme près de Mason, ce qui fut rapporté de nouveau à Saint-Alban la même nuit par 2 enfants.
Les témoignages s'accumulent, là.
Il y en rapidement. A énormément dans la même période de temps. Mm-hmm. Là, on arrive, ça tombe tranquille, mois de décembre plus tranquille, on arrive au mois de janvier, on recommence à avoir des témoignages de gens qui disent l'avoir vu. Il faut faire attention parce que là, entre le 15 novembre ouais. et le mois de janvier, oui. là, les journalistes ont fini par... prendre l'histoire, ah, parce qu'au ouais. départ, le premier journaliste qui en a parlé, il parlait d'oiseaux, et il disait « créature ». Il allait pas plus loin que ça, okay. et il a pris ça vraiment avec un grain de sel, il a été extrêmement prudent
d'accord.
dans son article.
Et là, j'imagine que c'est le contraire.
Et là, soudainement, on se rend compte, ah ben là, il y a peut-être matière à faire des ventes de copies.
Ah,
on va
ça.
Peut-être vendre du journal, si on en parle un peu plus, comme si c'était un fait qu'on avait vu une créature. Alors, les témoignages vont augmenter en janvier, en même temps que la couverture médiatique commence oh. à donner une certaine crédibilité à tous les témoignages. Là, tout le monde veut comme passer dans le journal. Tout le monde veut sa petite histoire. Fait que là, on commence à avoir là, des histoires un peu moins crédibles qui ressortent.
Peut-être c'est ça du monde qui veut en profiter. Moi aussi, je l'ai vu. Puis raconter des histoires, en profiter pour avoir de la vue, des vues,
et
des vues.
Et voilà. Un peu comme aujourd'hui avec YouTube, là, que les c'est gens ça. Font des affaires, des fois pas très brillantes, juste pour avoir des clics supplémentaires. Donc, ça va aller jusqu'au 15 décembre 1967, cette période-là où il y a énormément de témoignages et où plusieurs témoignages ne sont pas crédibles, mais pas du tout. Et ça se termine la période où on en voit énormément, le 15 décembre, et ça fit avec la date, une date dramatique. Ah. Vraiment dramatique pour la période, la région de Point Pleasant. Le pont, le Silver Bridge, qui est sur l'autoroute 35, ça relie Point Pleasant à Gallipolis, qui est en Ohio, et c'est sur la rivière Ohio, ce pont-là.
Oui.
Le 15 décembre 1967, le pont s'effondre. Mmh. Il y a 46 décès.
Et là là.
46 personnes qui meurent dans l'écrasement du pont. Et à partir de ce moment-là, on ne voit plus ou presque le Mothman.
Ah, ouais.
Ça se termine à cette date-là. Les témoignages en série, là, ça arrête. Là.
Mon Dieu, c'est donc bien curieux, ça.
C'est spécial, hein?
Peut-être que c'est lui qui...
Ben là, on va arriver dans les théories.
Ok, c'est ça, excellent.
Ah!
On garde tout ça en note, et puis on prend une courte pause.
Ben oui.
Et on revient tout de suite après. C'est trop bien fou, pour vrai, je m'attendais pas à
c'est
ça.
C'est le fun, hein?
Oui, ben oui. Je le vois, là, puis je veux tout savoir. On revient après la
oui,
pause.
Ben oui.
Les dossiers bizarres est une présentation de...
Après chaque partie de vos caribous du Pôle Nord, ne manquez pas sur les ondes de C'est Noël, l'émission d'après-match, La Remise en question. L'émission La Remise en question, c'est un paquet d'hommes d'âge mûr qui se rassemblent dans un cabanon pour se chicaner en parlant tous en même temps sur qu'est-ce qu'ils feraient eux autres s'ils travaillaient encore pour une équipe de la Ligue nationale de hockey. Dans mon livre à moi.
Non!
Dans mon livre à moi.
Mon livre à moi.
Moi, je ferais pas ça.
Si c'est de moi.
La remise en question, c'est aussi Gaston qui fait des petits dessins sur son écran avec son petit crayon électronique. Et Michel Bergeron qui est encore coincé dans les années 80.
Un guerrier. Dale Hunter. Un guerrier.
La remise en question, une émission animée par Danny, un sympathique personnage qui connaît bien son hockey, sur C'est Noël, après chaque match.
Dale Hunter, un guerrier.
Et nous sommes de retour à l'émission Dossier Bizarre. Jason Lévesque nous parle du... l'homme papillon?
Le Mothman.
L'homme papillon.
Le Mothman, c'est en gros une mythe.
Ah,
là,
ouais.
les c'est des papillons, là, des mythes.
Ouais,
là,
ouais,
c'est,
ouais.
Ben, c'est, on dit qu'ils ressembleraient un peu à une mythe.
Okay,
et
ouais.
C'est la raison pour laquelle on l'a appelé Mothman. Donc, des ailes très épaisses, quasiment du cuir.
Ah, c'est ça.
Une stature imposante. On parle de 7 pieds. Là, c'est 2,10 m. Là, c'est ouais, très ça. Grand. Là. Une grosse bibitte avec des grandes ailes qui font un bruit de papillon de nuit, mais très fort parce que c'est des grosses ailes avec une grande amplitude qui peut voler jusqu'à 100 000 à l'heure, ou peut-être plus, on ne sait pas, parce qu'il a poursuivi une voiture à 100 000 à l'heure, et c'est très impressionnant à voir. Donc, tout plein de témoignages entre le mois de novembre 1966 et le mois de décembre 1967. Je vous ai dit que les témoignages en série ou en grande quantité se sont terminés le 15 décembre 1967. On a une date précise,
oui.
Parce que ça marque un moment dramatique dans la vie des habitants de Point Pleasant, alors que le pont qui reliait deux villes sur la rivière Ohio s'est effondré et a fait 46 morts. Événement dramatique. Et là, tu as dit, ben là, peut-être que Oui, peut-être que. En fait, on a relié cet événement-là au Mothman.
Ah ouais?
Une des théories, ou une des explications qui expliquerait, selon certains, la présence du Mothman durant cette année-là, c'est qu'il était venu avertir qu'une tragédie allait se produire.
Ah,
et okay. Qu'entre janvier et décembre, ces apparitions se seraient faites de plus en plus fréquentes parce que la date de la tragédie approchait.
Ben oui, ok, ouais. Donc, un genre de héros de l'ombre,
et voilà,
étrange créature.
Et finalement, ben probablement qu'il a dit, ben ils m'ont pas écouté, puis il est parti parce qu'il était fâché. Parce qu'il y avait quand même du monde sur le pont. On dit que oui, il pourrait être soit sa vocation serait d'avertir qu'une tragédie approche, ou bien... Il est là parce qu'il prépare la tragédie.
Ouais,
les deux théories sont là, sont bien ancrées les deux.
Okay.
En fait, c'est un auteur, un monsieur John Keel, qui a fait, en 1975, il a écrit le livre « The Mothman Prophecies ». Et lui, il a recueilli tous les témoignages. Okay. Et là, il a essayé de relier les témoignages avec des drames qui seraient arrivés dans la vie de ces personnes-là.
OK, ouais.
Donc, mais lui, il m'a témoigné, mais... La femme du voisin à son cousin est morte d'un accident d'auto, puis lui, il a vu le Mothman, fait que c'est peut-être parce que... Et là, il a tenté, puis c'est des liens très boiteux souvent qu'il fait, mais il tente de relier des tragédies ou des drames aux apparitions du Mothman, et le drame ultime, qui fait qu'après ça, on l'a plus vu, c'est l'écroulement du pont, le pont qui s'est écrasé ou qui s'est détruit et qui a fait 46 décès. Alors lui, il a utilisé les témoignages pour créer une espèce de une mythologie autour de la créature, que le drame serait autour de la créature. Est-ce que c'est elle qui provoque le drame ou est-ce qu'elle vient l'annoncer ou tenter de le prévenir? Ça, c'est pas clair. C'est pas clair dans son livre non plus.
C'est ça, c'est un peu comme tous les ouvrages qu'ils ont eu par rapport à plein de dossiers qu'on a couverts, comme l'Atlantide, le Loup-Garou, le Kraken. Il y a plein de récits qui ont continué à propager cette légende-là, mais qui étaient en fait... des récits inspirés des témoignages, et là on sait plus trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai là-dedans. C'est mélangeant au bout du compte là, pour...
Tout à fait. Alors ce livre-là qui se veut une espèce de reportage d'enquête recueille les témoignages, et dans les témoignages il y en a des boiteux aussi là. Il y en a des assez douteux, mais il a quand même fait ce qui est la référence
c'est
sur
ça.
L'homme papillon, c'est John Keel qui l'a écrit en 1975. Et ce livre-là a aussi donné lieu à un film avec Richard Gere en 2002 qui porte exactement le même titre, The Mothman Prophecies. En français, c'est la prophétie des ombres.
Ah ouais, puis il y a un film
absolument. Et dans le film, Richard Gere joue le rôle de John Keel. Il joue le rôle d'un journaliste.
Okay.
Sa femme a vu le Mothman et elle est décédée peu de temps après.
Ah ouais.
Et là, il se réveille à Point Pleasant. Il ne sait pas pourquoi qu'il est là.
Okay.
Et là, il doit découvrir ce qui se passe et c'est le Mothman. Et à la fin du film, on finit avec plus de questions que de réponses.
Okay.
Un peu comme avec le livre où il n'y a rien de concluant finalement.
Ben, de ce que je comprends, c'est qu'étant donné qu'on n'a pas, on n'a jamais eu de photos, de clichés,
non.
De preuves, de quoi que ce soit, puis on sait pas, il n'y a pas d'explication véridique de comment ça s'est terminé. Ben là, la place à l'imagination est là, puis c'est clair qu'on l'a utilisé, puis que c'est devenu. Attractif?
Oui, ben c'est ça, c'est devenu quelque chose de très attrayant pour les gens et les gens qui trempent un peu dans le complot ou dans le paranormal et qui y croient, ben là, évidemment, ils s'en donnent à cœur joie. Alors là, on a des théories sur le Mothman qui, bon, c'est une créature d'une autre dimension, mais similaire à la nôtre et qui vit un peu à l'avance de nous.
Ouais.
Donc, il connaît les drames avant qu'ils arrivent.
C'est ça.
Donc, il essaie de venir nous avertir.
Ça ressemble un peu à... C'était peut-être un messager. C'est une théorie, bien sûr, je suis très pragmatique. Mais, tu sais, dans toutes les théories, on s'amuse. Il y a quelqu'un qui venait du futur.
Ben oui, ça peut être ça aussi.
Un voyageur
c'est un peu un mélange des deux qu'on fait avec cette théorie-là. Justement, on dit qu'il vit dans un univers parallèle, mais qui est à l'avance sur nous.
Ah, voilà.
Et qui a les mêmes événements que nous.
OK, donc, c'est ça.
Et lui... Comme il sait que dans un an, il va se passer quelque chose avec le pont va, va s'écrouler, ben, il est venu avertir les gens de Point Pleasant que le pont allait s'écrouler et il essayait là, de prévenir. Donc ça, c'est une des théories qui est très populaire. Évidemment, les extraterrestres.
Ben oui.
Ça fera toujours des extraterrestres.
Ben oui, bien sûr, les anciens astronautes ou bien toutes sortes d'autres extraterrestres.
Ben voilà, alors le Mothman pourrait être un extraterrestre aussi qui connaît le futur ou qui a un certain pouvoir sur le futur, dépendamment des croyances, donc qui pourrait influencer le futur.
C'est ça, parce que Oui, vas-y.
Et là, c'est ça. Ben, en influençant le futur comme ça, ben, il pourrait provoquer des drames là, à son désir, à sa convenance.
Mais c'est donc bien curieux comme créature. Ça, je trouve ça bizarre que j'en ai jamais entendu parler parce que...
Elle est pas belle en plus.
Non, c'est ça. Mais tu sais, un papillon, ça a six pattes.
Ouais.
Mais lui, il a ses bras puis il a des jambes.
Oh, oui, non, c'est ça. C'est vraiment un corps d'humain.
Okay, c'est
mais
ça.
Avec... un pelage, si on veut, de papillon, parce que c'est comme poilu un peu, les papillons de nuit. Il y a la couleur d'un papillon de nuit, donc un brun terne un peu, avec des yeux rouges qui reflètent la lumière.
Ah, ben, je connais certains papillons.
Qui ressemblent
qui ressemblent à ça,
ben,
ouais.
C'est ça.
Il y a les catocala, qui sont des papillons très rares quand même au Québec, que quand tu les éclaires avec une lumière LED, les yeux illuminent parfois rouges la nuit.
Donc, c'est probablement ce genre, cette famille de papillons-là qu'on identifie avec lui parce que c'est très caractéristique. Les yeux rouges du Mothman, ça c'est une des caractéristiques qui revient dans tous les témoignages.
Ah ouais, OK.
Ses yeux reflètent et souvent on le compare à un réflecteur de vélo. Donc comme tu dis, si on a un réflecteur de vélo, il devient pas rouge tant qu'il n'y a pas de la lumière qui le frappe.
Ben non, c'est
ça. C'est quand il y a de la lumière qui frappe le Mothman, ses yeux reflètent la lumière, mais rouge.
Un peu comme un chat aussi, la nuit. Les félins, là, quand on regarde les félins la nuit des animaux.
Oui, puis que la lumière frappe leurs yeux. Là, on voit quasiment le fond de leur tête.
C'est
là,
ça.
Que la lumière se rend loin, puis ça illumine, ça reflète la lumière là, comme si c'était un miroir. Donc. Ça
doit faire peur.
Et oui, hein, mais c'est ça. Puis les représentations du Mothman ne sont pas très belles. On va en parler tantôt parce que, je vous ai dit, hein, on a viré ça, évidemment, en machine à faire de l'argent, cette créature-là,
ben oui, c'est clair.
Et cet événement-là, et cette histoire-là. Alors, je vais vous en parler tantôt parce que, oui, il y a possibilité d'aller voir le Mothman.
Ah ouais?
Ah, absolument.
Oh.
Absolument. Donc,
je vais y aller.
C'est pas très loin, là. C'est quand même pas, c'est pas sur la côte ouest, là. C'est quand même relativement proche de nous. Donc, c'est possible. Il y a probablement des Québécois, là, qui vont faire un tour une fois de temps en temps du côté de Point Pleasant. Les autres théories qui sont là, on dit également que ça peut être un mutant.
Ah,
parce que l'usine de TNT, il y avait
des produits
chimiques et il y aurait eu des... on se remet dans les années 30-40.
Pendant
les
la guerre.
Les normes n'étaient pas tout à fait les mêmes pour la protection de l'environnement. Donc, des déchets toxiques, chimiques, auraient été relâchés dans l'environnement durant la période où l'usine de munitions et d'explosifs était active et que ces produits-là auraient pu provoquer une mutation.
Ben oui. On était dans le temps aussi de la guerre pendant l'usine. J'y ai passé tantôt quand tu me parlais qu'il était près d'une usine.
Mm-hmm.
Genre, usine, produits chimiques. Je pensais au nucléaire.
Ouais.
C'est pas nucléaire, mais.
C'est pas nucléaire, mais ça reste des produits chimiques là, qu'on utilisait pour faire différentes formes d'explosifs ou de munitions. Alors, ça aussi, ça fait partie des théories. On ramène aussi à. Parce que là, je vous ai dit, c'est très moderne, hein, c'est 1966. Ouais. Mais certaines théories remontent plus loin un peu. On parle du 19e siècle, donc les années 1800. Et on réfère cette créature-là à certains signalements qu'on aurait eus à différents endroits dans le monde. Donc, ce serait pas spécifiquement aux États-Unis que le Mothman aurait sévi ou aurait été vu. On parle, entre autres, en Chine.
Okay.
On parle en URSS, au Chili, en Géorgie. Et on parle également d'une certaine similarité avec des garudas asiatiques ou les oiseaux tonnerres amérindiens. Dans le folklore amérindien, on dit qu'il y a certaines ressemblances dans la description qui pourraient faire penser que cette créature-là aurait peut-être été vue dans le passé et si on recule très loin en arrière, là, dans certains folklores, il y a certaines descriptions qui s'y rapprochent.
Ah ouais, OK, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est comme pas, tu parlais de récent.
Oui, parce que l'histoire du Mothman comme telle, c'est très américain. Mais une fois qu'on décortique la légende, il y a certains experts en folklore qui ont dit ce que vous décrivez là, les Asiatiques ont les garudas qui ressemblent un peu à ça.
Okay.
Ou d'autres qui font du folklore amérindien ont réussi à trouver. Mais souvent, on se met à faire des parallèles et on se met à voir des choses qui sont pas nécessairement là. Peut-être c'est un peu comme quelqu'un qui regarde une maison, il y a deux fenêtres, une porte, on dirait un visage.
Ouais.
Oh, notre cerveau a tendance à faire des liens comme ça facilement et à voir des choses. Donc, après avoir entendu parler en long et en large de cette légende-là, certains folkloristes ont fini par trouver certains liens. Mais la description comme telle d'un papillon à l'apparence humaine, c'est très unique au Mothman et à cet événement-là.
D'accord.
Mais on a quand même tiré des liens. Bon, peut-être dans la croyance, peut-être que le cerveau, notre cerveau a certains souvenirs primordiaux qui des fois reviennent. Là, notre cerveau reptilien là, qui a tendance des fois à faire des liens dont on n'est même pas au courant là, nous-mêmes. Ben, peut-être qu'il y a certaines croyances comme ça qui sont ancrées dans notre ADN puis qui peuvent ressurgir à l'occasion. Parce que dans les théories d'explication, parce qu'évidemment, il y a toujours des sceptiques hein, dans ce genre d'histoire-là oui. qui vont arriver avec des explications beaucoup plus terre à terre, ça en fait partie.
OK.
On dit que la description du Mothman ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup aux descriptions du démon ou d'un démon que ouais. les gens voient ou ressentent quand ils font de la paralysie du sommeil. Est-ce que tu sais c'est quoi la paralysie du sommeil?
Non.
Juste avant de s'endormir, ouais. il y a certaines personnes... Notre corps se paralyse quand on dort. Uh-huh. Durant une certaine période de notre sommeil, notre nuit de sommeil, notre corps est paralysé. Okay. Habituellement, c'est dans la période où on va rêver.
Okay, ouais.
Ça empêche, parce que notre cerveau, le rêve, il le vit vraiment. Et comme notre cerveau le vit, le rêve, notre corps réagirait.
Okay.
Au rêve.
D'où des fois le somnambulisme, par exemple.
Et voilà. Okay. Et notre corps se paralyse. Mais il y a des gens qui vivent ce phénomène de paralysie-là avant de s'endormir.
OK, ouais.
Et ils sont comme entre les deux. Tu sais, des fois, là, tu es comme pour t'endormir, t'as ouais, l'impression ouais. que tu tombes.
Ben oui, ben oui.
C'est ce moment-là. Mais okay. eux, ce moment-là, ils le vivent sur plusieurs minutes et leur corps est paralysé.
Mais là... tu sais, à chaque fois, les premiers témoignages qu'on avait, c'était souvent 5 personnes, 4 personnes.
Oui, c'est plusieurs personnes qui ont la même vision en même temps. Donc, plusieurs témoins qui vivent le même événement en même temps. Donc, ça discrédite un peu cette explication-là. Mais ça reste intéressant comme explication. Puis, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est très personnel ce que je vais vous dire là, mais j'ai déjà vécu ça.
OK.
J'ai déjà vécu ça. J'ai un trouble du sommeil, moi, qui s'appelle le REM, Sleep Disorder. Ça veut dire que moi, mon corps, là... il ne se paralyse pas pendant mes rêves.
Ah ouais, okay.
Ce qui veut dire que ma blonde va souvent dormir sur le divan.
Ah ouais.
Parce que quand je fais des rêves, je me débat dans le lit.
Ah ouais.
Je bouge, je vis mes rêves, mais mon corps les vit aussi.
OK, ouais.
Alors que toi, quand tu rêves, ton corps est paralysé.
Uh-huh. Ouais,
donc,
ouais.
tu n'as pas de chance de frapper quelqu'un ou de tomber en bas du lit ou de lancer ton oreiller ou parce que tu es paralysé durant tes rêves. Moi, ça ne fait pas ça. Et c'est un trouble du sommeil connu, diagnostiqué, qui fait que mon corps bouge durant mes rêves. Et à un moment donné, j'ai déjà rêvé, justement, que j'avais un papillon géant, Tristan, qui m'attaquait.
Quoi?
Et je me suis débattu et j'ai frappé ma conjointe dans mon sommeil parce que je croyais que je me faisais attaquer par un papillon géant.
Ben non!
Et écoute, cette histoire-là m'est arrivée et je ne connaissais pas du tout l'existence du Mothman. Et ça m'a marqué, là, vraiment, je vais m'en souvenir toute ma vie de cet événement-là où je me suis fait réveiller là, en sursaut et dire... t'es en train d'essayer de me battre, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai raconté mon rêve. Alors, de souvenirs, j'ai pas beaucoup de souvenirs du rêve comme tel, mais comme je l'ai raconté en me réveillant, ben, j'ai pu me le faire raconter après. Hey, tu m'as dit que tu te faisais attaquer par un papillon géant, une forme humaine qui avait des ailes de papillon puis qui t'attaquait.
Oh, ouais.
Alors, quand j'ai lu l'explication comme quoi c'était une description qui ressemblait à une description faite par des gens qui ont des troubles de sommeil, le cœur m'a arrêté 2 secondes, ça fait comme, ben voyons
ben
donc,
oui, là.
C'est exactement ce que j'ai vécu.
Aïe, aïe,
c'est
okay,
assez
ouais.
fou. Alors pour moi, cette explication-là, elle a plus ou moins de crédibilité parce qu'il y a plusieurs témoins ouais. en même temps, chose que tu as souligné qui est tout à fait correcte.
Si c'était une personne, là, c'est clair que ça pourrait tout de suite, moi je dirais que c'est
ben
ça.
Ben oui, t'sais. Sauf que l'explication vient me chercher moi ouais. sur un point personnel parce que je me dis, ah, je me suis battu avec le Mothman.
C'est ça.
Mais vraiment, j'ai vécu exactement ce qui est décrit par les ouais. experts qui comparent la vision du Mothman avec ce trouble du sommeil-là.
Ben là, je suis en train de me dire, écoute, on va s'amuser là, à dire, pas, je vais dire pas n'importe quoi, là, mais je m'amuse, je regarde trop de films, puis je m'amuse. Mais dans le fond, Mothman, là, c'est quelqu'un qui vient du futur, puis en plus, il peut changger de dimension pour aller dans les rêves.
Ça se peut bien.
Fait que, il peut se promener là, dans la réalité c'est comme dans le subconscient.
Ça. C'est puis, peut-être ça.
C'est un être surnaturel doté de pouvoirs incroyables. Bon sang!
Hey, il entre nos rêves, puis après ça, il s'en va dans une usine de TNT
ça
faire
peur
à des étudiants qui s'en vont faire du necking.
Moi, le fait qu'il puisse, mettons, venir troubler mon rêve, tu sais, puis d'apparaître
c'est
dans mon
spécial.
Rêve, ça me fait peur. Je dirais que ça me fait quasiment plus peur ça que je le croise dans la vraie vie. T'sais.
Vraiment, moi, quand j'ai lu cette explication-là, en faisant mes recherches, puis je suis tombé, bon, parce qu'on fait tout le temps le côté farfelu, paranormal un peu, mais on essaie d'aller chercher quelques sources scientifiques aussi. Fait qu'en allant chercher les sources scientifiques, c'est la dernière étude que j'ai faite, dernière recherche que j'ai faite, et c'est la première explication sur laquelle je suis tombé. Je te jure, j'ai arrêté de lire en plein milieu de ma lecture, puis j'ai fait comme « Ouf, je vais aller prendre un petit verre d'eau, je pense que j'ai besoin de réfléchir un petit peu au sens de la vie, parce que ça avait... c'est vraiment venu me chercher, mais vraiment beaucoup plus que j'aurais pu imaginer que ça vienne me chercher. Mais j'ai revécu ce moment-là en lisant la description. C'est assez incroyable. Là.
Ben oui. Il y a des papillons de nuit qui sont maléfiques dans certaines régions du monde, comme au Brésil, il y a un papillon, non, je m'en rappelle plus si c'est à Madagascar ou au Brésil, bref, à quelque part sur le globe, il y a un papillon de nuit qui a comme une tête de mort sur son thorax.
Oui.
Et ce papillon-là, ce serait la réincarnation des gens qui sont décédés. Et puis,
c'est le papillon qu'on voit dans le film le Silence des agneaux.
Ah oui, c'est ça. C'est exactement
voilà.
ça. Et il y a un autre papillon ici au Québec qu'on appelle la sorcière noire.
Ah, ah.
La sorcière noire, d'ailleurs, si y a Carl qui travaille chez Parc Canada ici,
oui.
moi, je suis un fan là, de papillons, puis la sorcière noire, là, c'est comme le jackpot
okay.
de tous les papillons au Québec parce qu'elle est super rare.
Okay.
C'est un papillon hyper rare. Il est énorme.
Okay.
Il est à peu près là, 10 cm de diamètre.
Il pourrait gros comme un disque laser, un CD là, de
c'est
musique
ça.
Ordinaire.
Exactement. Et ben, l'affaire, c'est qu'il y a toujours des ailes noires déchirées.
Ah oui.
Il y a toujours...
Même quand il est en santé, il est en forme, il n'y a rien arrivé, ses ailes ont l'air déchirées.
Des spécimens intacts, on en a pratiquement jamais trouvé ou jamais trouvé. Les photos qu'on a de la sorcière noire...
Les ailes sont toujours
arrochées. Il manque toujours un bout d'aile à quelque part.
Ouais.
Fait
qu'on
a... Puis en plus, c'est Carl me l'a dit, là, quand il l'a trouvé, il y en a un. Il en a trouvé un, puis il était sur le toit, en fait, à l'intérieur de l'aréna de Denis Perron, à Saint-Pierre.
Okay.
Qui était comme. Les gens pensaient que c'était une chauve-souris.
Oh,
puis Carl, il a dit non, ça, c'est une sorcière noire, là, c'est un papillon. Puis il est allé l'attraper, puis il a dit que, tu sais, on dirait qu'il se passe de quoi. Il y a, comme, il y a de quoi de spécial, de bizarre avec ce papillon de nuit-là. Puis,
mais c'est un peu comme les créatures sous-marines. Hein. Les papillons de nuit, on les connaît très peu. Les papillons de jour, les beaux papillons, le papillon bleu, le monarque. On les connaît parce qu'on les voit souvent. Puis bon, on va se promener dans la nature. Habituellement, il fait clair, c'est de jour. Alors, on va voir les beaux papillons colorés. Papillons de nuit, souvent, sont pas beaux.
Ouais.
Ils n'ont pas une beauté là, esthétique comme on connaît. Fait que déjà, en partant, on les aime moins, ceux-là. Ils sont moins le fun. Puis il y a un côté mystérieux parce qu'il fait noir, on les voit pas. Souvent, on va les entendre. Hein, quand je dis on a un papillon sur le bord de la tête, on sait pas de quoi il a l'air, mais on fait puis on l'enlève, puis on le fait fuir sans même l'avoir vu. Rarement, les papillons de nuit un peu spéciaux, on va les voir. Ça arrive à l'occasion. Il y en a un qui va se poser sur notre maison, sur notre chalet, on habite en campagne. Mais c'est très rare qu'on va les voir ou qu'on va prendre le temps de les observer. Alors qu'un monarque, le monarque se pose sur une fleur, puis on est avec les enfants. Oh, viens voir le beau papillon! Puis on va voir, puis on l'observe, puis on le suit, puis que c'est merveilleux. Papillon de nuit, on fait pas ça.
Non, exact. Puis j'ai peut-être une statistique qui est intéressante par rapport à ça. Là. Les papillons de nuit, c'est 75 à 80% de la totalité des papillons.
C'est beaucoup.
C'est le 15%, c'est des papillons de jour.
Ouais.
Fait que quand on voit les papillons de jour, on pense que les papillons, c'est tout le temps des papillons de jour, mais
il y en
les
a
papillons
plus de
nuit. Le jour, sont tous cachés.
Ils dorment.
On les voit jamais. Ils sont cachés où? Dans les branches. Puis tu sais, le Mothman,
c'est un peu
ce délire-là, tu sais, que ça me fait penser un peu à ça. Il est tellement discret, on le voit jamais. C'est un peu dans justement il y a beaucoup de ressemblances directes avec les papillons de nuit.
Avec les comportements de papillons de nuit. C'est un peu la raison parce que oui, par son apparence, mais aussi c'était toujours de nuit. Il est très élusif. Là. On le voit pas, presque pas. Il reste caché. Quand on le voit, c'est de loin. On n'a pas une vue claire de la chose. On voit ses yeux rouges, puis ça fait peur. Mais ça reste, oui, c'est ça. C'est un comportement là, de papillon de nuit. Donc, non seulement il y a un peu l'apparence de, mais en plus,
il
l'a vu la plupart. Part du temps de nuit et comportement, de papillon de nuit. Alors, une des explications, qui est vraiment là, dans l'imaginaire avec cette fameuse représentation-là. Et comme je disais, les gens qui vivent de la paralysie du sommeil, donc qui sont paralysés sans dormir, et qui c'est un dérèglement aussi là, du cerveau, vont souvent décrire eux aussi, se sentir oppressés. Là, il y a un moment de panique hein, quand les gens vivent ça, c'est paralysé, je peux plus bouger. Les gens paniquent un peu et ils sentent une présence. Souvent, ils vont voir du coin de l'œil. Ils ne verront pas clairement devant eux. Il n'y a pas une bébite qui va se pencher et dire La bébite est comme tout le temps juste du coin de l'œil, juste à la limite du champ de vision. Mais leur description ressemble aussi à la description du Mothman. Dans les problèmes de sommeil comme moi j'ai, il y a souvent le Mothman qui revient, une description similaire au Mothman qui revient. Alors, c'est ça.
Okay.
C'est pas nécessairement la meilleure explication parce que là, on a plusieurs témoins en même temps, mais dans mon petit cœur à moi, celle-là, elle a frappé fort. Elle a frappé très, très fort parce que personnellement, j'ai vécu de quoi de similaire.
Ben, oui. Bon, vas-y.
Dans les autres explications, plus terre à terre, on parle des gros hiboux.
Ah oui, OK. Ouais.
Il y a dans la forêt de l'Est de l'Amérique du Nord, puis bon, plus au nord aussi des États-Unis, certains hiboux de très grande envergure qui peuvent paraître très impressionnants, surtout quand ils ouvrent leurs ailes, semblent majestueux et immenses. Les hiboux vivent de nuit.
Mm-hmm, bien sûr.
Alors, ça pourrait être une explication aussi. La lumière dans les yeux d'un hibou va se refléter
ben oui.
et peut donner l'impression là, qu'il y a des yeux lumineux. On parle de yeux rouges, les hiboux habituellement c'est pas nécessairement non. rouge, mais encore là, sous un certain angle, hein, oui. on peut voir le fond de la cornée.
Oui.
Et le fond de la cornée, c'est rouge.
C'est vrai, oui, c'est
Alors,
vrai.
Alors, quand on prend une photo, par exemple, ça arrive plus vraiment, là, mais à une certaine époque, quand on prenait une photo, on disait « Ah non, j'ai encore les yeux rouges! » C'est parce qu'on capte ben, le fond de l'œil.
Ah, ben tu vois, je trouve que c'est... Moi, personnellement, à date, là, je m'ennuierais par ça. Ben, tu sais, c'est ça qui est le fun du Mothman, là, c'est que... C'est un peu comme les dragons, pis tout ça, tu sais, les créatures, les grosses créatures légendaires de même. On peut s'amuser, là, tu sais.
Ouais,
à raconter toutes, tu sais, des théories un peu farfelues, mais qu'on n'aura jamais de réponse. Mais pour ce qui est au niveau pragmatique, le hibou, c'est vraiment ce qui est le plus terre à terre, là, tu sais. C'est ce qui ressemble le plus à la réalité, ouais. selon moi. Peut-être une chauve-souris géante?
Ben, ça pourrait être ça aussi. On parle d'une autre sorte d'oiseau. J'essaie de trouver le docteur Robert Smith.
Okay.
C'est assez générique comme nom, hein? Robert Smith, qui c'est un chanteur de The Cure aussi, hein? Je pense, Robert Smith, ça se peut-tu?
Je pense à la chanson Smith dans Matrix, mais non, je sais pas.
C'est un nom passe-partout, Robert Smith, qui est professeur de biologie à l'université de West Virginia, donc de Virginie Occidentale. Il dit que pour lui, ce serait une sorte d'oiseau qui est un... attendez deux secondes, là. En anglais, il l'appelle le Sandhill Crane. Donc, un espèce de grand oiseau marin qui dit que certains spécimens peuvent atteindre quasiment la taille d'un homme adulte.
Ah ouais.
Okay. Et qui peuvent avoir un reflet rouge dans les yeux quand, par noirceur, de la lumière se reflète. Okay. Dans leurs yeux. Alors, pour lui, c'est la meilleure explication.
Puis tu disais marin?
Oui, c'est un oiseau marin qui est gigantesque.
Là. Ah oui, okay,
et qui est rare, mais qui pourrait se trouver dans ce secteur-là. Il y en aurait des spécimens.
Un peu comme un... Je sais pas comment dire, là, je pense au pingouin, mais version... je connais rien d'un oiseau. Mais j'essaie de trouver là, à quoi il pourrait ressembler. Là,
ben, un crane, là, c'est... une grue, un oiseau grue.
Ah
là,
oui, OK.
Donc, qui sont déjà
ah,
très
ouais,
gros.
Ben oui, ben oui, okay.
Mais le Sandhill Crane, cette variété-là, elle est gigantesque.
OK, oui.
Déjà,
d'accord.
À la base, c'est un très gros oiseau et certains spécimens peuvent devenir là, aussi grands ou presque qu'un homme avec des gigantesques ailes. Et ils font beaucoup de bruit quand ils volent également. Fait que ça viendrait expliquer à peu près tous les points du Mothman. Donc ça, c'est son explication à lui. Et lui-même dit que ça se pourrait, étant donné qu'il y avait une usine d'explosifs dans le coin, qu'un de ces oiseaux-là ait pu avoir une certaine mutation, ait pu être affecté par des produits chimiques, et peut-être qu'il y a eu une lignée de ces oiseaux-là qui auraient eu certaines déformations ou malformations à cause des produits chimiques.
Ah ouais, OK. Ouais,
donc
ouais.
Ça serait une explication scientifique là, qui se tient.
Ben oui.
Alors ça, c'est dans les explications le plus terre-à-terre, c'est pas mal les plus populaires qu'on a. On disait que le Mothman, on revient un peu en arrière, là, mais le Mothman aurait été une créature qui venait avertir des désastres.
Ouais.
Ben, je le gardais pour la fin, ça, parce que je trouve ça quand même cool. On dit qu'il y aurait eu certaines personnes qui auraient eu des visions du Mothman. Et là, on parle de visions plus que témoignages de « je l'ai vu, là, il était là en avant de moi », mais des visions.
Ah, ouais,
on parle de visions dans notre sommeil, dans nos rêves. Mais on parle de Tchernobyl. En 1986, okay. Juste avant
le fameux
réacteur qui a fui et qui a contaminé là, la région de Tchernobyl là, depuis tellement longtemps. On parle en 2019 au Mexique, il y a eu une éclosion de la grippe porcine et qui a fait plusieurs décès. On aurait eu aussi des gens qui auraient eu des visions du Mothman.
Je reviens à Tchernobyl, c'est dans le fond des visions que les gens avaient, qui ont eu avant comme l'incident.
Oui, c'est ça, avant l'incident, même chose au Mexique, des gens qui auraient eu des visions avant que l'épidémie de grippe porcine là, frappe dans ce coin-là. Et on parle encore une fois d'un désastre nucléaire, cette fois-ci en 2011 à Fukushima.
Ben oui.
Donc là aussi, il y a eu un, à moindre échelle là, que Tchernobyl, mais quand même majeur. Donc, on dit que
Il y a des gens
qui auraient, mais bon, encore là, j'ai pas trouvé de témoignage comme tel.
Comme si c'était une image que l'on voit dans notre tête avant un cataclysme, une catastrophe.
Voilà, avant un drame, avant un désastre, avant un cataclysme, avant quelque chose là, qui va affecter la vie de beaucoup de gens, comme par exemple Tchernobyl, qu'on donne un exemple ici. Mais bon, comme je t'ai dit, j'ai pas trouvé de témoignage.
Ah, je comprends.
Monsieur Popov de Tchernobyl a dit que la veille de la catastrophe de Tchernobyl, il a rêvé au Mothman qui disait « Oui, sauve-toi! » j'ai pas vu de témoignage comme tel précis avec une source et tout ça. On fait juste dire « Il y aurait des gens qui auraient vu. » Puis bon, ça reste très évasif.
C'est y a un musée, tu disais, aux États-Unis?
C'est ça. Si ça vous tente de voir le Mothman, vous pouvez le faire du côté de Point Pleasant. À l'endroit, dans la ville où le Mothman est né, où la légende du Mothman est né, il y a un musée qui est là, un petit musée qui retrace un peu l'historique de tout ça. Il y a une statue gigantesque en argent. Là. C'est très impressionnant. Là,
c'est celle que tu as partagée.
Celle que j'ai partagée sur notre page Facebook. Une gigantesque statue du Mothman fait en fer travailler avec des yeux là, qui semblent être deux gros rubis.
C'est
là.
Ça, il fait peur.
Ah, il fait peur.
Sa tête est un peu étrange.
Oui, donc ça serait une représentation du Mothman selon les descriptions de l'époque de 1966, là, quand on l'a vu. On a fait cette statue-là et il y a un musée qui retrace, mais le musée parle aussi de toutes sortes de phénomènes paranormaux. Mais à la base, c'est un musée qui rend hommage au Mothman et à sa légende à Point Pleasant, qui est une petite ville des États-Unis, là, pas très grande, mais c'est un des attraits. Un peu comme dans le secteur d'Area 51, au Nouveau-Mexique, on a un petit village qui a un musée avec plein de trucs qu'on peut acheter avec des extraterrestres dessus. Donc, ils ont leur petit musée qui attire beaucoup de visiteurs.
C'est ça, c'est un attrait touristique.
Et voilà, c'est toi 7 jours sur 7, vraiment tout le temps à l'année. Il y a tout le temps des gens qui sont là. Il y a des restaurants qui ont un menu forgé selon la légende du Mothman. Donc, vous allez manger, au lieu de manger des toasts, vous allez manger des ailes de papillon, des choses comme ça. Il y a plein de petits attraits autour. Évidemment, on veut rentabiliser la légende du Mothman. Et à chaque année, il y a un festival du Mothman qui se tient aussi à Point Pleasant. Cette année, c'est les 19 et 20 septembre. Si vous vous rendez à Point Pleasant, vous allez pouvoir participer au festival. Il y a une parade.
J'imagine que les gens peuvent se costumer.
Les gens se costument et il y a plein il y a des conférences de gens qui viennent parler de leur expérience ou de leurs études sur le Mothman.
Des gens qui étaient encore c'est en 1960, 1966. Oui,
ben c'est ça, sont encore vivants. Pour certains, là, ont vécu ça là, de leur vivant. Alors, c'est un festival qui se tient à chaque année. C'est une fin de semaine plein d'activités là, qui tournent autour de ça. Évidemment, on le prend pince sans rire maintenant. Mais ça reste quand même un événement là, que les gens courent, les gens qui sont adeptes de paranormal ou qui aiment le paranormal vont courir là, pour aller voir le Mothman.
C'est intéressant. Ça, on peut s'en permettre avec ces créatures-là, un peu comme les dragons. Je vais en parler bientôt là, des dragons. On n'a jamais vu de dragon là, dans l'histoire là, pis tout ça, mais je pense que ça va être intéressant de creuser puis de s'amuser à créer toutes sortes de théories puis de les analyser puis en rire. Mais au niveau pragmatique, bon, c'est moi personnellement, on va se le dire, moi je pense que ça serait plus un grand hibou ou quelque chose comme ça. Là,
mais le grand hibou, l'oiseau, la grue qui peut atteindre des tailles là, absolument épouvantables là, pour un oiseau, ça ferait du sens. Ça empêche pas, ça discrédite pas les témoins.
Non.
Gardez ça en tête, c'est que ces gens-là avaient une crédibilité, n'ont eu aucun gain de ça, là, zéro. Ils n'ont pas fait une scène avec ça. Puis c'est même pas devenu un mythe ou une légende au moment où ça s'est passé. C'est tombé dans l'oubli pendant plusieurs années jusqu'à ce que John Keel écrive son livre en 1975. Après ça, c'est retombé dans l'oubli et il y a eu une recrudescence de popularité quand le film avec Richard Gere, au début des années 2000, Richard Gere était très populaire comme acteur. Donc, le film a été vu par des millions de gens.
Ça
l'a relancé la popularité du Mothman. Mais les gens en 1966 qui ont vécu ces choses-là, après ça, là, c'est tombé dans l'oubli. Fois que ça a été fini. Puis ces gens-là ont continué là, à vivre leur vie normalement, comme si de rien n'était. Alors, ils n'ont pas eu de gain. Aucun gain, même pas de popularité, là, zéro, là, aucun gain. Mais il y avait une crédibilité, ces gens-là, qui a fait que les gens disent ils ont vu quelque chose. C'est la raison pour laquelle les scientifiques font pas juste dire c'est des inventions. On a essayé de trouver qu'est-ce qu'il y a dans la faune de Point Pleasant qui pourrait expliquer ce que ces gens-là ont vu. Alors on prend pour acquis qu'ils ont vu quelque chose.
Oui, c'est ça. C'est exactement.
Mais c'est pas nécessairement un homme papillon.
Ben non, c'est ça, mais c'est intéressant. Il y a tellement de témoignages, de tellement de choses, de créatures sur le globe depuis le début de l'histoire de l'humanité. Qu'à un moment donné, comme tu dis, le temps avance, on passe à autre chose, on tourne la page, on passe, tu sais, il y a d'autres affaires qui arrivent dans l'actualité, mais tu sais, je pense au monde qui ont vu le vaisseau de la station Bonaventure, là. Ça doit les énerver, tu sais, de se dire que...
Et on n'en parle plus.
Non, c'est ça.
C'est comme si c'était jamais arrivé.
Exactement.
Et pourtant, eux l'ont vécu.
C'est ça.
Et ça va rester dans leur souvenir pour toujours.
Exactement. On parlait de DC tantôt, la Ligue de
Justice. Oui, c'est ça. Là, y a, dans la culture populaire, écoute, le Mothman a fait un retour en force, là, justement, là, dans les 20-25 dernières années. Le personnage, ou en fait, là, une version quelconque du personnage peut être vu dans les... En fait, c'est DC Comics là, oui. qui font Batman, entre autres, Superman, qui ont aussi une créature qui s'appelle Killer Moth, ou la mythe tueuse, qui est un Mothman, en fait, là, qui est un méchant. On peut le voir là, dans certains dessins animés, dont Teen Titans. On peut voir aussi là, une créature qui ressemble à une mythe. Okay. On a dans la culture populaire toujours À la poursuite du Mothman, qui est un livre, un roman dans le tome 4 de la série Les Cryptides. Alors, À la poursuite du Mothman aussi, qui fait partie de ça. Dans les jeux vidéo, le Mothman est extrêmement populaire. On peut le voir dans, attendez deux secondes, Mega Man X2 sur Super Nintendo, dans Nocturne sur PlayStation 2, Metroid Prime 2. Okay, on peut le voir aussi. Castlevania, on peut le voir. Fallout 76, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une des raisons pourquoi je l'ai faite plus tôt, parce que je suis en train de jouer. Et dans Fallout 76, ce qui est le fun, c'est que le jeu se passe en Virginie occidentale et le musée est là.
Ah ouais, okay.
Et il y a un culte. Alors, Fallout, c'est un jeu qui se passe après la guerre nucléaire, donc le monde est détruit. Il reste que très peu de survivants. Et en Virginie, étant donné que le Mothman, c'est de là que la légende origine, les gens post-apocalyptiques, le bon, il y en a certains qui sont virés fous un peu.
Ils ont fait une secte
et
Mothman.
Ils ont fait une secte Mothman ouais. et ils vénèrent Mothman. Mais le problème, c'est que il existe.
Ah ouais,
alors,
okay.
c'est une créature qu'on doit combattre dans le jeu. Et si on va à Point Pleasant, qui est vraiment une ville dans le jeu, on peut y aller. La ville est reproduite là, de manière très réduite et le musée est là.
Okay.
Donc, on peut aller au musée Mothman dans Fallout 76. Alors, à défaut d'y aller en personne, si vous avez le jeu Fallout 76, vous pouvez vous rendre sur place.
Ah, ben, attends, ben, tu me donnes le coup d'essayer juste pour aller combattre le véritable Mothman.
Et il y a aussi Monster Legend, qui est un jeu là, populaire, là, édité par Capcom, si je me trompe pas, sur plusieurs plateformes. Là. Il l'a sur PlayStation, il l'a sur Xbox, il l'a sur Nintendo Switch aussi. Le Mothman est là également, et on l'appelle le natif de Point Pleasant.
Ouais, ouais, c'est donc bien intéressant tout ça, Jason.
C'est fou, hein? C'était écœurant. Il y en a plein. À la télévision, il y a X-Files, évidemment, qui ont touché le sujet parce que c'est très américain.
C'est ça. Je me rends compte qu'il est très ancré dans la culture hollywoodienne, populaire, états-unienne.
Oui.
C'est donc bien intéressant. Je vais aller probablement regarder le film bientôt aussi, qui est sorti en 2002, là, pour le fun. Je vais me créer une passe Mothman dans les prochains jours. Jason Lévesque.
Et si jamais vous voulez lire, vous êtes plus lecture ou vous aimez pas Richard Gere, ben le livre de John Keel, The Mothman Prophecy, ou la prophétie des ombres, est relativement facile à trouver encore aujourd'hui. Là, donc voilà. Et il y a eu le film La Voix des Morts aussi, qui est en 2005, celui-là, avec Michael Keaton. C'est une histoire là, d'être capable d'écouter des esprits avec des certaines fréquences. Donc ça aussi, il y a l'homme papillon qui s'y trouve et qui vient annoncer une catastrophe au héros pour qu'il puisse tenter de la prévenir.
Incroyable, incroyable. Le Mothman, l'homme papillon, Jason Lévesque, merci.
Légende très moderne, ça fait du bien.
Ben oui, exact.
C'est le fun qu'on puisse trouver. Écoutez, dans les légendes modernes là, qui sont à l'ère d'Internet, il y a Slenderman, il y en a tout plein là, comme ça là, qui arrivent et qui tout de suite sont propulsés un peu là, à l'avant-plan là, de la culture populaire. Mais en 1966, là, on est à l'ère du papier puis du crayon, des journaux, de la télévision. Et c'est là que cette légende-là est née à Point Pleasant, en Virginie occidentale.
Pourrais-tu une dernière fois nous refaire le son des Z? Ah, c'est drôle. Excellent.
On est loin du...
C'est ça.
C'est moustique. Mais vraiment, on sent là, comme des ailes en cuir.
Ben oui, exact.
Lourd.
Il fait probablement faire des cauchemars. Je voudrais pas dormir à soir et j'ai peur qu'il va venir envahir mes rêves. La semaine prochaine, je vais essayer de trouver un sujet parlant du nombre de pas de créatures. En fait, on va.
Ouais, on va essayer de dévier un peu. Là, on en a fait plusieurs.
Fait que soit un lieu mythique, quelque chose comme ça. Là, mais écrivez-nous des idées de sujets.
Oui,
on
absolument.
En a. Écoutez, plus on en a, là, ben, plus on va pouvoir faire des épisodes.
Tout à fait.
Ben, je pense qu'on a infini de sujets.
Ah, il y en a. Puis on en reçoit des suggestions chaque semaine. Là. Puis continuons à en faire. Ça veut pas dire qu'on va pouvoir les faire. Les sujets, des fois on manque un peu de matériel, des fois on en a trop de sujets encore.
Ben oui.
On les garde quand même en réserve parce qu'éventuellement là, on va se refaire une liste, là. Notre liste est bien remplie, mais éventuellement on va la rafraîchir. Les suggestions que vous faites là, vont se retrouver sur cette liste-là.
Ben exactement, puis des fois écouter les vieux épisodes, ça fait un an là, qu'on a commencé bientôt.
Absolument.
Je me rappelais plus des premiers, là, pour le plaisir, je suis allé réécouter quelques passages de justement de la station de
Bonaventure. Ouais,
le tout premier, exactement.
Tout premier épisode.
Puis, non, c'est ça, je vous invite à aller partager même les vieux, là, les épisodes, si vous voulez les partager, en parler.
Vous êtes plusieurs dizaines de de milliers de personnes actuellement qui écoutent des épisodes. C'est assez impressionnant. Alors, on vous remercie de votre fidélité. Et actuellement, là, rendu au mercredi, jeudi, on reçoit des messages de « Vas-tu en avoir un cette semaine? Là? J'ai hâte là, d'avoir le prochain. Là, j'ai fini de les écouter. » Ben, ça s'en vient. On en fait aussi souvent qu'on est capable. Des fois, le temps nous manque, mais on a une certaine régularité qui s'est installée. Alors, merci d'être là. C'est grâce à vous si on continue.
Puis peut-être un dernier petit mot pour dire que je le redis quand même là, qu'on n'est pas, on n'est pas des experts. Là. C'est ça,
absolument,
on vous remercie beaucoup de nous suivre pis tout, parce que
on fait la job de vulgarisateur bien plus que documentariste là, actuellement.
C'est plus la curiosité qui nous amène à parler de tous ces sujets-là. Mais,
ça amène des belles discussions des fois, des gens qui en connaissent plus que nous qui vont nous jaser, mais pas pour nous corriger nécessairement, mais pour des compléments d'informations. Alors c'est toujours agréable.
Vraiment. Merci beaucoup, Jason.
Ben, merci à toi, mon cher.
Merci à vous d'avoir été là et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un autre épisode de Dossier Bizarre.
Absolument. Merci, bye bye tout le monde.
Salut.
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
Ici José Théodore, l'ancien gardien de but du Canadien. Est-ce que, comme moi, ton plus grand cauchemar serait d'avoir plus de cheveux? Alors, ne crains plus rien grâce à mon nouveau produit, les cheveux de José. Les cheveux de José est un produit 100% original, fait entièrement de Propecia, mais avec ma face sur la bouteille. Grâce aux cheveux de José, tu ne perdras plus jamais tes cheveux, mais tu ne pourras pas non plus aller aux Olympiques. Disponible dans toutes les bonnes quincailleries.